Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Roten Régal. François Pinet.
Jérôme Roten.
19h sur RMC, allez, c'est reparti pour Roten Régal, pour la deuxième heure de Roten Régal avec François Pinet, oui. Bien sûr, avec Jean-Michel Larquet. On a passé une bonne première heure, on a refait un peu le monde du foot là.
On se félicite, on n'est jamais mieux servi par soi-même. C'était une très bonne première heure.
Elle est passée vite. Et
la deuxième va être exceptionnelle. N'oubliez pas aussi de vous inscrire pour le quiz en fin d'émission au 32-16. Votre mission, c'est de faire gagner Captain.
Il a gagné la semaine dernière.
C'est parce que j'étais pas là.
Il avait mis fin à une.
À mon avis, il y a eu de la triche.
Une lourde série. C'est possible que Antoine l'ait aidé.
C'est toi qui dis ça. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, c'est toi qui dis ça.
On verra ce soir, Captain.
Non, mais c'est vrai qu'il a été aidé. J'ai vu Antoine lui parler dans le coup, mais c'est pas grave.
Mais c'est pas grave.
Antoine, il n'était pas là la semaine dernière.
Bah, si.
Le maintien. La course à l'Europe. La course au podium. On va parler de tout ça maintenant avec tous nos correspondants qui sont mobilisés pour cette avant-dernière journée de Ligue 1. On y va tout de suite. Le multiplex. De Roten Régal, c'est parti.
RMC Roten Régal.
Et la casquette qui sale est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette qui sale.
Le multiplex.
Alors, on va faire ce multiplex en demi-temps avec deux équipes de correspondance ce soir. Il va y avoir les deux équipes. En deuxième mi-temps, dans 30 minutes, on fera rentrer Nicolas Paul Orsi, Pierre-Yves Leroux
en deuxième mi-temps.
Et Julien Landry pour parler de la lutte pour le maintien. Voilà, les remplaçants. Mais d'abord, les titulaires.
Les titulaires,
on accueille d'abord un finaliste de la Coupe de France, Clément Brossard à Monaco. Salut Clément.
Salut François, salut Jérôme, Clément. Salut Captain. On est là pour faire la différence en première période et puis après, voilà, les coiffeurs
s'occupent. Exactement.
Il est en embuscade, il n'attend qu'un faux pas de Clément et de l'ASM pour surgir. C'est le Lyonnais Edouard Jacques qui est là. Salut Edouard.
Salut à tous.
Salut Dodo.
Moi je tiens que 27 minutes hier soir. J'espère tenir 30 minutes.
Ah oui, le problème avec
jusqu'à l'égalisation de Monaco.
On va réduire la première mi-temps. Ils peuvent remercier Monaco parce que désormais la 6ème place est qualificative pour la Coupe d'Europe. La Conference League, la fameuse que l'on va découvrir l'année prochaine.
On a hâte.
Flo Germain est là à Marseille avant Marseille-Angers. Salut Flo.
Je ne m'occupe que de la 5ème place. Salut, personnellement. Bonjour à tous.
Jean Baumel, on le retrouve dans le Nord avant le match de Lens face à Bordeaux. Salut Djibo.
Là, j'ai l'embarras du choix, moi.
Salut Djibo.
Oui, il pense au titre, forcément. Xavier Grimaud pour les Rennais qui se déplacent à Monaco. Salut Xavier.
Salut messieurs, la 6ème place on la prend ici.
Salut Xavier. Ah ouais.
On te la laisse. Tout va bien, pas la peine de finir le choix.
Lance aussi, Lance se traîne. Ou la 5ème plutôt. Pour embêter Flo.
La 5ème, la 6ème place.
La Conference Cup, je suis pas sûr que Bruno Genesio, ça l'intéresse.
Il va se faire avoir. Il y en a un des trois.
Il a pas dit ça aujourd'hui.
Ah ouais.
C'est vrai. On va en parler. Mais on va commencer par la course au podium.
Il est ambitieux.
Pep
devient ambitieux. C'est incroyable.
Avant de parler de Rennes et de Pep Genesio, on va commencer par la course au podium.
C'est pas le bon.
Messieurs, Monaco, 3ème, un point d'avance sur Lyon. Monaco qui reçoit Rennes alors que Lyon va à Nîmes. Donc ça c'est important, ça peut se jouer ce week-end. Clément, Monaco qui est en mode commando visiblement cette fin de saison avec une mise au vert à rallonge décidé par Niko Kovac. Vraiment à rallonge pour le coup.
Oui, après la victoire d'hier, ils sont en effet retournés dans leur bulle, les monégasques confinés depuis lundi dans ce qu'ils appellent une bulle de performance. Et ce, pendant 10 jours, deux objectifs. Le premier sanitaire, c'est limiter les contacts avec l'extérieur pour une équipe qui a régulièrement été frappée par le Covid cette saison, ces dernières semaines avec 6 cas positifs depuis le mois dernier. Ils logent dans un hôtel à quelques mètres du centre d'entraînement de la Turbie. Le personnel est restreint, testé régulièrement, sinon il n'y a que des membres de l'AS Monaco. L'autre objectif de cette bulle, c'est de rester focus sur la fin de saison avec ses deux derniers matchs en Ligue 1 contre Rennes dimanche et à Lens lors de l'ultime journée, plus la finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain mardi prochain pour tenter de remporter ce titre attendu sur le rocher depuis 1991. Et cette mise au vert a été décidée par Niko Kovac, Paul Mitchell et James Bunce, le responsable de la performance, après approbation évidemment des joueurs. 10 jours, c'est comme si on partait en sélection, nous a dit Caio Henrique la semaine dernière. Nos familles savent que c'est pour notre bien et le bien du club. Et puis les joueurs le vivent plutôt pas mal, les matchs s'enchaînent, donc ils ne voient pas trop le temps passer. Pour vous donner une idée, s'ils sont arrivés cette nuit vers 3h après leur demi-finale de Coupe de France, donc ils étaient de repos ce matin avant une séance d'entraînement cet après-midi. Et quand il y a un creux dans la journée, les joueurs et le staff, ça donne aux jeux de société, au tennis de table, à la pétanque. Il y a également une piscine intérieure, un court de tennis où se présente la paire Kovac. La paire Kovac avec les frères Nico et Robert. Voilà, ça joue un petit peu de la balle jaune, ça se taquine, ça se chambre, mais évidemment évidemment, ce sont des moments assez rares, hein, car l'essentiel des journées est consacré à la préparation de ces prochains rendez-vous capitaux pour Monaco.
Ah, je leur ai donné
piscine et tennis.
Ouais, c'est dans ma propriété. Je leur ai donné les clés. Je leur ai dit allez, régalez-vous. Voilà, la Turquie, ils sont bien. Non, ils sont bien. Non, mais c'est vrai que en plus de ça, alors là, il y a un contexte qui est particulier. Mais à Monaco, souvent, dans les équipes qui jouent quelque chose en fin d'année, parce que quand t'as rien à jouer, bah, y a aucun intérêt de faire une bulle comme ça ou de se retrouver ensemble pendant quelques jours. Mais souvent, c'est arrivé. Moi, je sais que les années où j'étais avec Didier Deschamps, le moment du Grand Prix, parce que le Grand Prix arrive ce week-end, à ce moment-là, on essaye de te couper un petit peu du monde. Pour que tu restes vraiment focalisé sur tes performances et sur l'ambition du club, parce que tu peux vite t'éparpiller.
Ah oui,
je te confirme.
Façon puzzle, oui.
Tu peux vite penser à autre chose.
Et Kovac, il a pensé à tout ça, tu crois? Il s'est dit, je suis à Monaco, il a tout de suite compris que ça fonctionnait comme ça.
Mais je pense que, et Clément va pas dire le contraire, Kovac, la grande force qu'il a depuis le début, et c'est pour ça que ça a pris aussi vite. C'est que toutes les habitudes du club, il les a assez respectées, il s'est servi de ça. De l'ADN de ce club, ce que certains dirigeants ou membres, tu vois, il y a des gens qui sont très importants au club, qui sont dans l'ombre, mais qui sont là depuis bon nombre d'années. Et il a su s'ouvrir et écouter ce qu'on avait pu lui dire. Et ça a été aussi les erreurs commises par Moreno, par exemple, par Jardim de temps en temps, même si Jardim était une réussite à Monaco, ou par Thierry Henry quand il est revenu.
Ouais, et puis il s'est mis les pieds, hein, Nico Kovac, quand il est arrivé, il a dit, bon, je sais très bien que je suis à Monaco, il y a le soleil, il y a la plage, il y a les plaisirs, mais avec moi, vous allez travailler. Donc voilà, il a dit directement. L'idée qui tient bien son vestiaire aussi, c'est une petite anecdote, mais ça montre également qu'il a peut-être ce pouvoir sur ses joueurs, c'est qu'hier, après le match de Rumi, évidemment, les joueurs comptaient le faire, mais il a félicité ses joueurs et il leur a dit, bon, maintenant, vous sortez tous et vous allez tenir tous vos maillots aux joueurs de Rumi. Voilà, ça montre un peu qui est Nico Kovac dans son caractère, et tout le monde s'est exécuté. Donc c'est vrai que dès qu'il demande quelque chose, voilà,
c'est pas anodin, hein, si les joueurs ont validé cette mise au vert pendant une dizaine de jours.
Parce qu'ils doivent valider.
Ils ont été mis au courant, les cadres ont été contactés et tout le monde
est. Ils ne peuvent pas dire, non, je ne fais pas la mise au vert.
Non, mais attends, alors.
Ils sont obligés.
C'est toujours très compliqué de l'exprimer ou de le raconter parce que les gens vont dire, les pauvres, partir 10 jours comme ça. C'est vrai que les saisons sont denses. Alors même si Monaco n'a pas joué la Coupe d'Europe, ça prend beaucoup psychologiquement, tu vois, ça te bouffe du jus. Et en fin de saison comme ça, c'est là que c'est difficile. Et donc t'as accepté en effet une mise au vert de 10 jours qui ressemble à un rassemblement avec ton équipe nationale quand tu joues deux matchs. Ça peut être fatigant. Il faut surtout pas que ça soit pris comme ça, ouais. Parce que si t'y vas avec le frein à main, c'est le meilleur moyen pour te casser la figure. Hein.
Alors, il y a le contexte sanitaire aussi, hein, faut le souligner. Plus, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu le Covid. Caio Henrique disait, moi par exemple, je l'ai eu, mais je sais que beaucoup de mes partenaires l'ont pas eu, et on veut absolument pas avoir de nouveaux cas à deux journées de la fin, sachant qu'il y a la finale de Coupe de France qui arrive.
Pas de mise au vert à Lyon, Edouard, a priori.
Je pense qu'ils s'entendent un petit peu moins bien avec Rudy Garcia.
Je
sais pas pourquoi.
Rester 10 jours avec Rudy Garcia.
Je pense qu'il y en a qui n'ont pas envie.
Bon. En tout cas, justement, on va parler du coach lyonnais qui va vivre, Edouard, son avant-dernier match sur le banc lyonnais.
C'est surtout Juninho et Rudy Garcia qui ont peut-être pas envie de retrouver 10 jours ensemble.
Il a été question de son avenir en conférence de presse une nouvelle fois?
Oui, pour la énième fois.
Parce que aussi du banc lyonnais, bien sûr, pas que du
exactement, sein. C'était une espèce de fil rouge depuis 5-6 mois, et fatalement, bien, un confrère y est allé, alors avec le sourire, un petit sourire, voilà, Rudy, tu vas faire les deux derniers matchs, et donc Rudy Garcia sentait que, avec ce sourire, allait arriver justement cette question, du coup, bah, lui a souri, et tout simplement, ça nous a dessiné l'absence totale de traces de stress dans les yeux de Rudy Garcia, et puis vous allez l'entendre aussi dans la voix, c'est le même état d'esprit, concentré sur l'objectif, et puis son cas, on le verra après, la réponse de Rudy Garcia sur ce fil rouge de l'année, son après OL.
Très content, je travaille bien, on s'entend bien, il y a plein de points positifs. Après, on s'en tient à ce qu'on a dit avec les dirigeants, et on fera le point quand le championnat sera terminé. Après, c'est un peu logique, tout ce qui se passe ou tout ce qui se dit en ce moment, à partir du moment où un joueur, un coach est en fin de contrat, il y a plein de rumeurs et plein de choses qui circulent. Mais bon, franchement, c'est pas un problème particulier. L'essentiel, c'est de gagner à Nîmes. Le reste importe peu.
Voilà, il a parlé même de logique de situation. Alors, bien évidemment, du coup, on en arrive aux noms qui circulent. Hein. Donc, on a pu les lire ça et là. Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Sassuolo. On entend encore, bien évidemment, Laurent Blanc, Patrick Vieira, parce que ce sont des noms qui viennent à chaque fois qu'il y a un changement de banc à Lyon. Paolo Fonseca, l'entraîneur de la Roma. Alors, moi, dans mes radars, j'ai toujours le même. Hein. Christophe Galtier, le très désiré Christophe Galtier, même s'il y a la piste niçoise qui est bien réelle. Naples, là aussi, approche. On l'a déjà dit, et puis tout comme un autre club italien ces dernières heures, mais l'OL est bien décidé à faire ce qu'il faut pour emporter la mise. Et puis après, il y a pourquoi pas l'option Juninho. L'idée est vraiment dans l'air, mais avec toujours ce problème, c'est qu'il n'a pas le diplôme, donc il faut qu'il passe ce diplôme. Et ça peut pas se passer en un claquement de doigts. À noter que tout le staff, sauf Claudio Cassapa, est en fin de contrat, donc à la fin de cette année, là, au mois de juin 2021. Et on murmure aussi le nom de Gérald Baticle pour Angers, lui, l'entraîneur adjoint.
Alors, il y a une petite précision aussi, puisque Jean-Michel Aulas a tweeté, le président, en parlant de Gallardo. Il a dit, Gallardo a fait savoir à l'OL qu'il ne se libérera pas avant décembre. Il est en contrat avec River Plate, donc il ne rejoindra pas Lyon, a priori. Et il précise, l'OL n'a pas pris de contact avec d'autres entraîneurs et il reste dans l'attente de la fin du championnat avant de se prononcer, contrairement aux propos de l'équipe. Voilà, il met un petit tacle à l'équipe aussi.
Oui, bon, après... On en doute que Rudy Garcia, quoi qu'il se passe, va prolonger l'aventure dans tous les cas. Donc Edouard le disait.
Il ne va pas prolonger l'aventure.
Donc, après Jean-Michel Aulas, il peut nous expliquer comme il veut. On le sait déjà depuis un certain temps. Après, le tout, c'est de. Et là, je rejoins Rudy Garcia. Il faut avant tout se concentrer. Je pense que tous les joueurs se sont mis à l'idée que de toute façon, Rudy Garcia ne sera plus là, que lui-même sait aussi qu'il sera plus là. Par contre, laisser le club en Ligue des Champions, c'est bien là l'essentiel, et qu'il faut gagner ces deux derniers matchs pour surtout pas avoir de regrets, parce que ça ferait tâche si Lyon n'arrivait pas à gagner ces deux derniers matchs. Au moins un sur les deux qui est un faux pas, par exemple à Nîmes, et que Monaco laisse aussi des points et qu'à l'arrivée ils finissent quand même quatrième du championnat. Donc, ils sont focalisés sur cet objectif-là. Je pense très certainement que cette victoire à l'arraché à Monaco dans ce contexte-là leur a fait énormément de bien dans le fait de d'être de nouveau ambitieux et d'avoir de grandes chances de finir sur le podium. Et ils vont se servir de ça pour faire un sans faute. Du moins, moi je les vois pas faiblis. Sur le match à Nîmes et puis le dernier match à domicile, bien sûr.
Ouais, malgré les doutes autour de Rudy Garcia, ça n'aura pas d'influence sur le groupe.
Les doutes, Edouard te le disait et nous le rappelle très souvent. Je pense que les doutes, les joueurs savent depuis un bon bout de temps qu'il ne va pas re-signer Rudy Garcia.
Non, dire,
et ils ont fait abstraction de tout ça. Peut-être que par moment...
Parfois, dans certaines équipes, ça peut avoir une influence négative.
Je pense qu'il y a eu une mauvaise influence sur certains matchs quand Lyon a laissé des points dans la façon de jouer quand tu fais une mi-temps sur deux. Je pense que il y a des choses dues au fait que l'entraîneur ne va pas prolonger. Tu peux trouver des excuses de ce côté-là, mais là depuis maintenant un mois, non, c'est fini. Ça, il pense plus à ça.
À 19h13 sur RMC dans Roten Régal, on va continuer bien sûr notre multiplex spécial 37e journée de Ligue 1. Clément Edouard, vous restez avec nous pour nous donner des infos dans un instant sur les groupes lyonnais et monégasques, et on va parler de cette course à l'Europe avec Marseille, Lens et Rennes engagés. Il y en a un des trois qui ne jouera pas l'Europe la saison prochaine. Restez bien avec nous.
RMC
18h-20h
Roten Régal. François Pinet,
Jérôme Roten.
19h15, toujours dans Roten Régal. Allez, on continue notre multiplex. François, on perd pas de temps.
Multiplex exceptionnel, et dans un instant on changera l'équipe, hein, parce que Clément Brossard, Edouard Jeff, Flo Germain, Jean Baumel, Xavier Grimaud sont avec nous, mais ils commencent à fatiguer. Donc on va.
Il y en a, on n'a pas entendu. Alors j'espère qu'ils sont pas fatigués de parler quand même.
On fera des changements dans un instant pour parler du maintien, bien sûr. Mais on va parler de cette sixième place qui est devenue qualificative pour la Coupe d'Europe. Ça t'a pas échappé depuis la qualification de Monaco en finale. De France.
On va s'éclater avec la Conference
League, la nouvelle compétition à venir. La cinquième place devient qualificative pour la Ligue Europa. Ça devient intéressant. Du coup, qui restera sur le carreau entre Marseille, Lens et Rennes, entre Flo, Djibo et Xavier? On verra ça. Marseille est cinquième, devant Lens seulement la différence de but. Rennes est 7e à un point de ses deux concurrents. On va commencer par toi, Flo, avec l'Olympique de Marseille. Marseille qui reçoit Angers. Et Sampaoli, qui était en conférence de presse aujourd'hui, a pris des décisions pour avoir un groupe plus concerné pour les deux derniers matchs de Marseille.
Exactement. Souvenez-vous, après la défaite à Saint-Etienne, il a pointé du doigt ce qu'il appelait des intérêts individuels, personnels, qui prenaient un peu trop le pas, selon lui, sur l'intérêt collectif. Bon, en gros, la fin de saison, l'incertitude qu'il y a chez certains joueurs, ou même le fait que beaucoup vont partir, notamment parce qu'ils sont en fin de contrat, tout ça, selon lui, perturbait un petit peu l'OM. Et l'une des décisions, alors au départ, franchement, moi le premier, on s'attendait à ce qu'il vise des joueurs qui ont joué à Saint-Etienne. Ça paraissait logique. Tu fais une mauvaise perf à Saint-Etienne, tu regardes qui potentiellement peut l'avoir déçu, et notamment dans l'attitude, aurait provoqué cette sortie de Sampaoli. Finalement, d'après nos infos, les trois joueurs qui en font les frais directement, ce sont Cuisance, Kawi et Valère Germain, puisque ces trois joueurs, c'est vrai, on l'a constaté, n'étaient pas à l'entraînement ce matin, et on a pu fouiller, travailler, et en fait c'est le cas depuis mercredi. Sont à l'écart du groupe, en salle, musculation, vélo, tout ce que vous voulez, mais pas d'entraînement collectif. Donc en fait, Sampaoli a décidé de travailler avec un groupe resserré jusqu'à la fin de saison. Il estime que c'est le meilleur moyen pour fédérer un peu le groupe, concerner le groupe, aller chercher ces places européennes. Alors ça a fait grincer quelques dents, hein, on m'a dit en interne, parce que en plus on a affaire à des joueurs qui, dans l'état d'esprit, c'est pas eux qui vont mettre le feu dans un vestiaire, a priori. Enfin, Cuisance, je maîtrise un petit peu moins, mais Kawi et Valère Germain ont été quand même des joueurs plutôt exemplaires dans l'état d'esprit. Ils ont pas toujours eu du temps de jeu. Et donc la décision est celle-ci, de travailler avec un groupe très réduit. Ça a un petit peu agacé certains coéquipiers de ces joueurs-là, parce qu'ils se disent ok, là c'est eux, mais peut-être que
ça, c'est quand même une décision facile.
Ah ouais, ça c'est sûr que c'est un peu facile. Alors d'autres joueurs,
je trouve quand même que c'est, je sais pas si c'est pour être en adéquation avec ses déclarations, Cuisance qui lui a sauvé un peu le début de.
Il a mis deux buts lors des premiers matchs, de Sampaoli.
Le début de son aventure. Mais Kawi, dont je ne connaissais même pas l'existence, et je m'en excuse, ou veuillez m'en excuser, et Valère Germain,
pourtant, Nasser Larguette, que l'autre. On l'avait vendu comme le futur Di Maria.
Honnêtement, Sampa, je pense que c'est pas très très courageux.
En tout cas, Valère Germain, il se faisait pas d'illusions sur son avenir, parce qu'il a joué 0 minutes. Zéro minute depuis que Sampaoli est arrivé. Ouais. Kawi n'était pas dans le groupe à Saint-Etienne. Juste rapidement, là, aujourd'hui en conf, Sampaoli, il a dit qu'il voulait gérer des situations émotionnelles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui génèrent de la confusion en fin de saison, et donc sa tâche, il dit, c'est de trouver les joueurs qui sont vraiment concernés par ce match. C'est bizarre, parce qu'il y a 10 jours, il nous disait que Valère Germain s'entraînait très bien et qu'un jour il aurait sa chance. On n'y comprend pas grand chose.
Après, ces trois joueurs,
il va falloir parler de Sampaoli.
On est sûr qu'ils vont quitter le club, ces trois joueurs.
Peut-être
qu'ils préparent aussi la saison prochaine avec cette décision.
Oui, mais dans ce cas-là, fais-le jusqu'au bout.
François, c'est pas ce qu'a dit Sampaoli à l'issue du match.
Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais on est à deux journées de la fin, on sait que Germain est en fin de contrat, Kawi aussi, qu'il est prêté, ils ne vont pas rester.
Il a dit que ce qu'il avait sur le terrain, il n'était pas satisfait, et que pour les matchs à venir, il prendrait des gens qui sont investis à 100%.
On ne s'attendait pas à ces noms-là.
C'est pas le premier entraîneur qui, à deux journées de la fin, veut avoir un groupe restreint, réduit, pour focaliser tous les joueurs qu'il a à disposition. Ça, je peux le comprendre. Après, ce que je comprends pas, c'est que ça arrive suite à une défaite, donc à Saint-Etienne, et que Marseille, ils sont pas en mission commando, quoi. S'ils étaient en mission commando à Saint-Etienne, ils auraient fait un autre match. Exactement. Dans l'état d'esprit déjà.
Et d'ailleurs, Jérôme, c'est le retour que j'ai quand même de la commanderie, c'est-à-dire qu'il est grand temps que la saison se termine. Les esprits sont usés, la saison a été longue, et il a du mal à fédérer. Il y a pas une véritable, il y a pas trop d'âme dans cette fin de saison, en compétition sur la pelouse. On sent pas, comme tu l'as dit, un groupe qui a faim et qui veut aller chercher cette Europe. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont effectivement peut-être la tête ailleurs.
Alors de l'âme, il y en a à Lens, hein, Djibo, en revanche. Là, il y a de l'âme, là, quand même. Ils se déplacent chez un mal classé Bordeaux, et forcément, là, ils sont 6e, donc qualifiés pour la Coupe d'Europe, du coup. Est-ce que ça change quelque chose, d'ailleurs, du côté des
Lens? connu deux fois cette saison deux défaites consécutives. Bon, là c'était contre le PSG et contre Lille, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ils sont passés à travers forcément contre Lille, c'est les deux matchs d'ailleurs cette saison, hein, les deux derbies n'ont pas été bons. Ils ont toujours su rebondir. Alors il y a pas mal d'absents quand même, mais on sent que voilà, il y aurait, bah, Francaise veut relativiser, il avait dit pas cette semaine mais la semaine d'avant que septième ce serait déjà de toute façon une saison réussie. Après c'est sûr qu'une place en Coupe d'Europe, après faudra voir aussi, hein, tout le monde se dit est-ce que c'est pas trop rapide pour le Racing Club de Lens d'aller en Coupe d'Europe. Voilà, je pense que s'ils peuvent y aller, ils vont y aller à fond, mais leur espoir je pense c'est de bien finir et de terminer même cinquième. Alors c'est vrai, il y a Bordeaux, il y a le dernier match contre Monaco, et pour rappel ils ont gagné à Monaco lors du match aller.
Oui, donc calendrier difficile pour Lens. Ouais. Dubois nous disait...
Avec un déplacement à Bordeaux, calendrier difficile.
Oui, non, mais avec le match contre Monaco, c'est ça.
Ouais, est-ce que Calcutta préférerait que ce soit Bordeaux en deuxième division et Toulouse en première? Il n'a pas dit.
Ça, pour mettre à Calcutta et défendre la porte, ça, t'es pas le dernier. Ça, c'est sûr, on a compris.
Bon. Mais, non, mais en tout cas, Lens, septième, est-ce que ça serait une déception de ne pas être en Coupe d'Europe après la saison qui
à la base, c'est pas une déception. Le club vient de retrouver la Ligue 1. Ils font une saison remarquable à tous les niveaux, en termes d'état d'esprit, en termes de collectif, avec un entraîneur qui découvrait ce niveau-là en Ligue 1. Et franchement, ils ont été surprenants. Donc, je pense que de la fierté, ils en ont ramené beaucoup dans le Nord et du côté de Lens. Et ça, les joueurs en sont convaincus. Après, il faut continuer, il faut aller au bout de l'aventure. Et là, on parlait du groupe de joueurs tout à l'heure à Monaco, la mise au vert à Lens. Et je te le dis parce que je le sais, parce que j'ai parlé avec beaucoup de joueurs de Lens et du staff et du club. Ils te disent que ce groupe-là est fabuleux, qui vivent super bien ensemble, ils prennent du plaisir à s'entraîner, à aller en mise au vert, à faire les matchs. Donc avec cet état d'esprit-là en fin de saison, c'est toujours important de l'avoir. Et je suis persuadé qu'ils seront au rendez-vous déjà à Bordeaux et qu'après, bah, ils joueront une finale contre Monaco. Le problème, c'est l'adversaire. Lens, c'est pas la meilleure équipe de France. Et que quand ils jouent des équipes du haut du tableau, bah, ils vont galérer, ils vont avoir du mal. Parce que Monaco, à son niveau, va certainement battre Lens. Comme Lille a battu Lens. Lyon a la capacité de battre Lens.
Et comme un Paris Saint-Germain moyen a battu Lens.
Et ben voilà, donc c'est pour ça. Mais il faut quand même mettre en avant, et c'est pas parce qu'ils finissent septième, si jamais ils finissent septième, que la saison sera ratée. Non,
pas du tout, pas du tout. Mais bon, il y a peut-être une petite déception.
Là, il y aura une déception. Bah, vu le jeu proposé, c'est vrai que.
Et puis retrouver Lens en Coupe d'Europe, je pense que ça peut être pas mal si jamais les tribunes sont ouvertes aussi. Enfin, on l'espère, avec des supporters.
Je pense que
ça peut être.
Qu'on change le ministère des sports, je pense qu'on va y arriver.
Le Racing Club de Lens, bien sûr. Hein, Djibo. Il va avoir sa place en Coupe d'Europe et son titre.
Non, mais si on change la ministre des sports, on aura du monde dans les tribunes.
Bon, on va y arriver quand même. Il insiste.
Je lui reproche le fait d'avoir encore des tribunes vides et la finale de Coupe de France, tribune vide. Voilà.
Ça serait bien de savoir au mois d'août ce qu'on pourra faire quand même pour la reprise du championnat.
Ça, je sais pas.
Pour la troisième. Pour la septième place, pour l'instant. La septième place, elle est occupée par le Stade Rennais, Xavier Grimaud. Le Stade Rennais qui reste sur un match intéressant à Paris. Un nouveau test à Monaco, cette fois, pour l'équipe de Genesio. Et pourtant, avec Genesio, Jérôme, et oui, que tu le veuilles ou non, ils semblent sûrs de leur force, les Rennais. Ça y est, ils ont trouvé leur général.
On l'a vu à Bordeaux il y a 15 jours. Vas-y.
Il y avait l'effet de jeu.
Je plaisante.
Je sais bien. En tout cas, Rennes aborde ce sprint final avec de la confiance, à juste titre, parce que la dynamique, elle est quand même là. Et le match face au PSG l'a montré. Bruno Genesio, qui était encore déçu tout à l'heure en conférence de presse du match face à Paris, parce qu'il le dit clairement, on aurait dû gagner et on aurait pu passer cinquième, parce qu'on avait fait ce qu'il fallait pour déstabiliser un petit PSG, certes, mais les Rennais avaient fait un vrai bon match. Donc Genesio, très élogieux sur Monaco, l'équipe la plus spectaculaire à avoir joué en 2021, mais je sais qu'on peut leur poser des problèmes vu qu'on en a posé au Paris Saint-Germain et qu'il voit son équipe progresser individuellement, collectivement. C'est vrai que Rennes joue bien, Rennes est capable de se créer des occasions, Rennes marque beaucoup de buts depuis l'arrivée de Bruno Genesio. La sixième place, ça change beaucoup de choses pour le coach et pour les Rennais, parce que c'est une Coupe d'Europe tout simplement, et que ça permettrait au club d'atteindre les objectifs en début de saison. Selon Genesio, 6 points, si on fait le plein, on sera dans les 6. Il pense que Lens et Marseille feront, ou l'un des deux feront un faux pas. Il y avait François Pinault à l'entraînement aujourd'hui. Ouais, c'est pas si courant que ça, même s'il est voisin, il habite à Dinard. Il a parlé aux joueurs au début de l'entraînement. Beaucoup d'encouragement pour qu'ils aillent chercher ces victoires pour essayer d'avoir une Coupe d'Europe. Alors, Jérôme, tu raillais un peu la Conférence Cup avec cette sixième place. Certes, c'est une Coupe d'Europe qu'on va découvrir, une Coupe d'Europe au rabais, mais bon, pour l'instant, si on regarde les clubs virtuellement qualifiés, il y a des clubs comme Tottenham, Villarreal, Mönchengladbach, la Roma. C'est pas une Coupe d'Europe non plus de club bidon. Et ce serait surtout une quatrième qualif consécutive en Coupe d'Europe pour le Stade Rennais, messieurs. Quel autre club a fait ça en France? Quatre qualifs consécutives en Coupe d'Europe. Bah, personne à part le PSG. Donc, ça montrerait quand même que Rennes est...
Il y a de la stabilité.
Il y a de la stabilité et progresse quand même.
Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une progression, Xavier. Là, t'es gentil encore parce que.
Et Lyon, ils l'ont fait, non?
Lyon, on l'a fait.
Sur les quatre dernières années, tu veux dire? Ouais, sur les quatre dernières années, bien sûr. Mais c'est que le football existe avant, on peut dire ce qu'on veut. Oui, mais ça montre quand même un club qui est capable de se qualifier tous les ans pour la Coupe d'Europe.
Et sinon, le repas avec Flo Maurice et Pep Genesio, ça s'est bien passé.
Mais il y avait des retours. Ils vont jouer avec toi, ça c'est sûr.
Putain, là, ils t'en ont mis plein la tête. Là. Wow, c'est une bombe qui nous a envoyé Xavier, mais bon là, écoute, moi bon.
je trouve que c'est quand même la preuve d'un club qui serait régulier. Certes, il serait dans la petite coupe d'Europe, allez. Mais voilà, ça montre quand même qu'ils sont capables de se qualifier tous les ans, et c'est une
on
preuve d'un club qui s'installe dans le
stade, dans le multiplex avec vous. Vous êtes 5 infos, une info chacun, messieurs. Clément Brossard à Monaco, info sur le groupe de Monaco avant Monaco-Rennes.
Oui, alors Nico Kovac a affirmé hier soir après la victoire face à Rumi Ivalière qu'il avait bon espoir de récupérer Jovetic, Diop et Diata pour ce week-end. On en saura certainement un peu plus après la séance d'entraînement de demain prévue au stade Louis II, mais ce sera un moindre mal, hein. Les Monégas qui commencent à tirer un peu la langue là, surtout dans le secteur offensif où les solutions sont plus restreintes. Il y aura également Pellegrini qui sera de retour, également l'Italien qui a purgé ses deux matchs de suspension.
Edouard, même chose, quelles infos pour le groupe lyonnais avant Nîmes?
Alors Mathias Deschilio suspendu, forfait de Tino Kadewere, il est incertitude concernant Jason Denayer ou Djamel Benlamri. Par contre, retour de Depay, Marcelo, Cacré et de Melvin Barr. Bref, il y a un groupe très compétitif pour le déplacement à Nîmes.
Flo, des infos de la compo probable du coup pour Marseille contre Angers?
Oui, on peut se lancer sur une compo très probable pour dimanche. Mandanda dans le but, trois axios, Sakai, Alvaro Balerdi, Lirola piston droit, Luis Enrique piston gauche, Rongier, Camara au milieu et trio Payet, Tovin, Milik. Vous les avez remarqué, Chalet Tatsar, qui a déçu le staff par son implication et ses performances, devrait être sur le banc des remplaçants contre le SCO.
On suivra ça bien sûr. Djibo, des absents à Lens avant d'aller à Bordeaux, tu nous en parlais, lesquels?
Aïdara, Michelin, Silas, Sotoka, tous suspendus. Voilà, bon, ça tourne bien du côté de Lens, hein. Normalement ça devrait pas trop pénaliser l'équipe de Francaise, mais bon, Sotoka c'est un joueur important, mais ces derniers temps blessure, suspension, il joue un peu moins.
Et des retours importants à Rennes, Xavier.
Ah oui. Oui, retour d'Eduardo Camavinga et de Steven Nzonzi de suspension. Il y a le retour d'Adrien Truffert également, qui était blessé aux adducteurs. Il sera peut-être un peu juste pour débuter. Donc on devrait avoir l'équipe type des dernières semaines avec le milieu de terrain Camavinga, Nzonzi, Flavien Tay, Doku, Bourigeaud et Terrier. C'est en pointe, donc Guirassy devrait retrouver une place sur le banc.
C'est pas mal pour cette équipe du Stade Rennais. C'est la mi-temps de ce multiplex. On va donc changer d'équipe. Clément, Edouard, Flo, Djibo, vous êtes remplacés.
Allez, les losers, aux losers de la
on a fait la différence, ils ont bien la dimanche.
Je garde Xavier parce qu'il a été bon.
Ouais, exactement.
Oui, moi je reste 90 minutes, hein, j'ai du foncier.
Mais ne prononce pas le mot de Bruno Genesio.
C'est vrai, c'est son mot ça.
On joue dimanche, on doit s'économiser nous aussi.
Allez, vous êtes remplacés à dimanche. On va parler du matin avec Brest, Bordeaux, Nantes et Nîmes. Restez bien avec nous dans Rotten Régal, à tout de suite.
RMC 18h-20h Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
19h33, toujours sur RMC, bien sûr, dans Rotten Régal. Allez, on finit la dernière demi-heure avec François Pinet, Jean-Michel Larquet.
Un Rotten Régal exceptionnel.
Avec un multiplex exceptionnel. Voilà. On a reçu donc les 5 maillons forts de l'année. Voilà. Là, maintenant, il y a les
remplaçants.
Les super
turnover.
Le fond du bus.
Eh oui.
Le fond du bus.
La lutte pour le maintien.
Ah, le fond du bus, on l'a entendu.
J'en ai entendu un. Julien Landry est là pour les Nîmois, 18e. Salut Julien. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Allez, on va remonter le classement un petit peu. Il est juste au-dessus, les
barrages. Julien, très bon sur le rugby. Hein.
Oui. Pierre-Yves Leroux est à Nantes. Salut Pierre-Yves.
Salut, mais qu'est-ce que je fais là? Nantes est premier de Ligue 1 depuis un mois devant Paris et Lyon.
Non, t'es bien à ta place. T'es bien à ta place, tu joues le maintien.
Ah bon?
Eh oui, un peu plus haut, mais il tremble, hein. Il tremble. Nico Paul Orsi à Bordeaux. Salut, voilà. Nico.
Salut les gars, salut, ouais, à tous. C'est moche d'avoir parlé de foncier à Gibault et Edouard G, quand même. Je trouve ça moche.
Et il est resté dans l'équipe, il est toujours là. 90 minutes, il les tient. Xavier Grimaud, pour des Brestois pas encore sauvés. Rebonsoir, Xavier. Ouais.
Bonsoir, même pas les jambes lourdes, tout va bien.
Par contre, je comprends pas parce que Gilbert Bribois, il est venu une fois. Alors, ah on est tranquille, on craint plus rien. Et depuis qu'ils ont les
supporters,
il est plus là, il a disparu totalement.
Il est parti en vacances. Ouais. Je sais pas s'il reviendra.
Bah, il reviendra à la fin du championnat.
Quand on sera en Ligue 2.
Ouais. Allez, on commence. On va remonter le classement petit à petit. On va commencer par toi, Julien. Nîmes, qui est à deux points de la place de barragiste, il reçoit Lyon ce dimanche. Est-ce qu'ils y croient vraiment, les Nîmois? Julien,
ils y croient parce que dans les gènes de ce club, des remontées totalement impossibles, impensables, ça fait partie de l'histoire de ce club-là. On pense tous évidemment à la saison 2015 où les Nîmois avaient 10 points de retard au début du mois de janvier en Ligue 2 et que tout le monde les pensait condamnés à redescendre en National et qu'ils avaient fait cette fameuse Nîmontada, le mot à la mode depuis quelques jours du côté de Nîmes. Ils s'étaient maintenus en Ligue 2. La saison suivante, ils étaient montés avec Magic Blackar et puis il y a deux ans, pareil, au mois de décembre, ils étaient 20e en Ligue 1 et ils avaient fait une phase retour exceptionnelle pour se maintenir. Alors oui, les Nîmois y croient, on a pu croiser quelques supporters cette semaine. Alors évidemment, ils sont en train de faire plein de calculs, ils sont en train de tout regarder, mais voilà, ils sentent cette équipe capable de faire des exploits. Ils ont été gagnés à Marseille, ils ont été gagnés à Lille, ils avaient fait un nul au match aller du côté de Lyon contre les gros cette saison. Les Nîmois ne sont jamais passés à côté, et ben il va falloir évidemment qu'ils fassent des exploits parce que tu l'as dit, c'est Lyon qui vient au Costières dimanche et ils finiront à Rennes dans 10 jours. Donc évidemment, le calendrier des Nîmois est sûrement le plus compliqué de tous les prétendants au maintien. Mais voilà, ils s'accrochent au fait que cette équipe-là, elle est capable de renverser les montagnes. Alors évidemment, il va falloir réaliser deux exploits. Mais les Nîmois sont plutôt, alors on va pas dire confiants, mais voilà, ils sont plutôt dans l'espérance de se dire que ce club-là est capable de réaliser des exploits et de renverser les montagnes. Et ça passera évidemment dès dimanche par la venue de Lyon au Costières.
La Nîmontada, vous y croyez, capitaine Jérôme?
Le problème c'est l'adversaire.
Ah oui.
Bah oui, bien
le
sûr.
Le problème c'est l'adversaire. Ben oui, il joue Lyon, Lyon qui joue une place
en Rennes.
Non, mais déjà Lyon. Étape par étape parce que
oui,
parce
ça pourrait être fini dès ce week-end pour Nîmes.
Exactement, mais ils peuvent pas faire un match nul, il faut qu'ils gagnent. Donc il faut battre Lyon. Comment ils vont battre Lyon quand tu vois les derniers matchs de Nîmes? Je suis désolé, ben Julien, tu nous rappelais le calendrier, les derniers matchs et puis les années d'avant, les remontadas, mais le problème c'est que Nîmes depuis le début de l'année à domicile c'est très faiblard, ça doit être deux victoires sur l'ensemble du championnat et puis sur les cinq derniers matchs à domicile ils n'en ont pas gagné un.
Donc, en étant en défense supériorité numérique.
Et puis en jouant des équipes, on peut pas dire les meilleures de Ligue 1, quoi. Strasbourg, Reims, Saint-Etienne, Montpellier, Nantes. Donc, si t'arrives pas à battre ces équipes-là, comment tu vas battre l'Olympique Lyonnais? Moi, je suis assez pessimiste. Après, ça reste un match de foot.
Hein. Crois pas, capitaine non plus, j'imagine.
Puis Magic Blackard n'est plus là.
Mais juste une petite remarque. Le calendrier de Nîmes est difficile. Mais dans les équipes qui vont lutter, Brest, avec un déplacement
à Brest,
une réception du Paris Saint-Germain, c'est pas simple non plus.
Sauf que Nîmes, capitaine, si Nîmes perd tous ses matchs, ils sont sûrs de descendre, alors que Brest, avec un concours de circonstances, en perdant tous leurs matchs, ils peuvent arriver à se maintenir.
On va y aller à Brest, justement, puisque tu m'as fait cette passe décisive. Xavier, Brest, c'est vrai qu'ils sont assez hauts dans le classement par rapport au reste, ils ont 40 points, mais bon, c'est pas fait. En revanche, il y a mobilisation générale du côté de la Bretagne, j'ai l'impression.
Ouais, totalement. Mais Jean-Michel a raison. Il y a mobilisation générale parce que la situation l'oblige. La pente, elle est très dangereuse pour les Brestois. On avait quand même très peu cité leur nom aux Brestois comme étant une équipe en danger pour le maintien. Le problème, c'est que c'est l'avant-dernière pire équipe de 2021 derrière Dijon. Il y a Bordeaux également qui est pas loin. Il y a très peu de victoires. Ils ont 3 points sur Nantes. Hein, on le rappelle, 18e avec une moins bonne différence de but que les Nantais. Ça veut dire que Nantes, Si Brest perdait encore, il passerait devant. Il y a eu cette défaite un peu insensée le week-end dernier à Nice, 3-2, alors que Brest a mené 2 fois au score. S'est retrouvé toute la deuxième période en supériorité à 11-10. Mais ils ont tout gâché. Le match du maintien a été gâché dans les grandes largeurs. C'est très chaud parce que le dernier match à Le Blé, ce sera le Paris Saint-Germain qui devra peut-être l'emporter à tout prix pour conserver ses chances de titre. Donc il reste Montpellier. Julien nous le confirmera, qui va peut-être être en claquette. Il y aura plus grand-chose à jouer pour les Montpelliérains. Faut maintenir à distance, surtout pour les Brestois, Lorient et Strasbourg, parce qu'il y a deux points pour l'instant entre les deux équipes. Il y aura un Strasbourg-Lorient en dernière journée, donc les deux équipes ne pourraient pas le dépasser. Voilà, il y aura un bon bilan à faire à la fin de la saison, parce que cette équipe brestoise, c'est un peu la déliquescence sur la deuxième partie de tableau. Ah, Olivier Dalloglio est annoncé éventuellement.
Ils avaient été brillants en première période.
Ils avaient fait beaucoup de jeux, Jean-Michel, mais ils avaient toujours encaissé énormément de buts.
Ah, bah, c'est pour que tu marques 4 buts à l'extérieur pour gagner un match.
Exactement.
Tu vas pas me gagner exactement. Beaucoup, hein, ça c'est sûr.
Ouais, l'attaque est un peu moins bonne. Romain Fèvre n'a plus d'influence depuis depuis maintenant 4-5 mois. Il tire la langue. Donc voilà, il y a un bon bilan à faire.
Plus tout à fait ce que c'était.
L'Arsenal c'est plus très bon. Voilà, donc il y a effectivement des questions et il y a une mobilisation générale également du côté des ultras. Ça s'est fait de manière pacifique, mais ils ont interrompu l'entraînement pendant 5 minutes avant-hier pour bien donner aux joueurs l'envie de sauver le club. On espère évidemment que les Brestois l'ont, mais il y a un petit peu le feu. Au niveau pourtant, du bout du monde pour les Brestois.
Les supporters ne devraient pas être énervés parce que j'entends tous ceux qui analysent le foot sans forcément connaître la haute compétition, mais qui te disent ces clubs-là, le plus important, c'est le spectacle, ce qu'ils mettent en place, un jeu spectaculaire, ce qui était le cas de Brest, on l'a mis en avant.
Avec son entraîneur,
ils se reconnaîtront. Mais tous les grands spécialistes qui te disent, mais le plus important, c'est quand même le spectacle que tu donnes aux supporters, et là-dessus, ils te le rendent bien à la preuve.
À Clermont, par exemple, ils montent en Ligue 1. En jouant bien.
Mais ça t'empêche pas.
Les gens
étaient en train de s'en sortir par le jeu.
Ce discours, en fait, bien sûr que vaut mieux bien jouer au football pour gagner des matchs. On est d'accord.
C'est la conséquence
Il faut s'adapter. Xavier vient
t'as pas les moyens.
Viens te le dire.
Au d'un moment, quand t'arrives en Ligue 1, tu dois bétonner.
Est-ce que c'est bétonner le fait? Le discours que j'ai, c'est bétonner. Tout de suite, François, en fait, vous êtes focalisé dans un style de jeu. Il faut absolument que les équipes elles jouent comme ça et tout ça. Bien sûr que c'était flamboyant sur la première partie de saison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas flamboyant du tout. Tu regardes Brest jouer. Tu crois qu'ils ont été flamboyants quand ils ont perdu à Saint-Etienne?
Non. Vous avez entendu Pierre-Yves, salut de Nantes viendra peut-être par le jeu,
Pierre-Yves qui affronte
le relégué Dijon pour se sauver.
Par une amélioration, ils étaient tellement nuls. Il y avait ton Ménèque qui était passé par là.
Vas-y Pierre-Yves.
Non mais de toute façon, je ne sais pas ce que je fais là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Lille, Paris, Lyon, c'est derrière Nantes. Non mais la dynamique, elle est importante parce que sur ce classement du dernier mois, Brest est 15e, Bordeaux 17e, Strasbourg 18e, ça va jouer sans doute. Les Nantais sont quand même dans cet état d'esprit d'être un peu plus fort. C'est vrai, Jean-Michel, ça va mieux parce que peut-être ils n'étaient pas très très bons. Mais ça reste un sentiment partagé chez Antoine Comboiré, justement, parce qu'il dit, c'est sûr, c'est stressant parce qu'on ne dort pas beaucoup, c'est excitant parce qu'on est revenu dans la course, on commence à récolter les fruits, les voyants sont au vert, mais il y a zéro certitude parce que il va falloir les jouer ces matchs et notamment ce match à Dijon. C'est vrai que c'est le 20e. Lui, il a vraiment pas envie de faire des calculs. Dimanche, il se dit, en revanche, on va l'entendre, que c'est peut-être le match le plus important de l'année avant Montpellier dans 10 jours.
On a deux matchs, deux grandes finales, dont la première qui est donc dimanche prochain face à Dijon, qui est, pour moi en tout cas, peut-être le match de l'année. Parce que tout le monde nous voit gagnant, tout le monde voilà, fait comme vous là, des calculs, avec des calendriers, et c'est la grave erreur qu'on ferait nous. Si on s'endort un peu, les deux gifles, on va les prendre dans la figure. Hein.
Voilà, il est méfiant Antoine Comboiré, il a toujours été depuis qu'il est arrivé. Mais il y a cette petite odeur là qui est quand même est agréable. D'ailleurs, on le sent paisible, mais il veut bien que les joueurs se rendent compte que l'objectif, il est dans 10 jours et pas déjà atteint.
Nantes va se sauver.
Je serai à la place d'Antoine Comboiré, je tiendrai le même discours. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'effervescence due aux 3 victoires de suite, en plus avec la manière, et Pierre-Yves te le disait. C'est une équipe qui joue bien, il y a des joueurs qui retrouvent un très bon niveau, et ça, tout le mérite aussi à Antoine Comboiré qui a su les remettre
mais quand tu as le milieu de terrain, Blas, Louza,
tu me parles d'eux aujourd'hui, alors que tu les désenterré il y a deux mois.
Qui?
Évidemment.
Oui, ben non, mais
les mêmes là, les mêmes, ah, les mêmes. Mais ils faisaient pas de passe de suite.
Mais c'est vrai, mais on les enterrait.
Ils y allaient tout droit, c'est sûr.
Maintenant,
le passe de suite c'est compliqué, mais deux, ça allait encore davantage.
On a toujours dit que dans tous les cas, c'était pas la meilleure équipe de France, mais qui méritait pas ce classement-là, et qu'il y a des joueurs qui avaient montré des qualités bien avant, sur les saisons d'avant, et que là on comprenait pas, et c'était aussi un problème d'état d'esprit, un problème de confiance. Et là, tout le mérite à Antoine Camboire. Oui. Et puis tout ce qu'il a mis en place au niveau du jeu, parce que moi je l'ai souvent, et à juste titre, catalogué d'un entraîneur
défensif qui avait que le mot
c'est surtout le mot guerrier,
voilà, commando,
commando et tout ça. C'est vrai qu'il
s'en cache pas.
Non, oui, mais sauf que cet état d'esprit commando, il avait un petit peu disparu dans les derniers clubs qu'il avait entraîné, que ça soit à Dijon, à Toulouse par exemple. Et c'est vrai que on pouvait être sceptique sur ce qu'il apportait. Et ben on est obligé, force est de constater que le fait d'avoir pris un petit peu de le break par la force des choses, d'être revenu aux affaires dans un club qui lui correspond très certainement, et ben là il fait des choses magnifiques. Et à mon avis, avec ça, tu verras que ils vont se maintenir.
Il y en a
pas par le barrage ni rien, ils vont se maintenir.
Il y en a un qui
parce qu'avec juste une victoire à 40 points, tu regardes le classement à 40 points, je pense qu'ils vont se maintenir.
Il y en a un qui se cache là depuis tout à l'heure.
Bah, Nicolas Paul Orsi.
Il tremble.
Il sait qu'il va jouer contre Toulouse le match de barrage.
Non mais j'entends des mots.
15 jours, lui.
Ah, il peut se cacher à la radio, mais en vrai, il ne peut pas se cacher hein, avec le physique qu'il a.
Non, mais j'entends des mots. J'entends état d'esprit. J'entends guerrier. C'est des trucs que je ne connais pas, moi.
Confiance.
Confiance.
Dynamique. En plus, toi, tu l'as eu, la victoire. Gasset nous disait, il nous faut une victoire depuis 10 journées. Tu l'as eu, pourtant, ta victoire.
On l'a eu.
Contre
on l'a eu.
Nico, il mange les pizzas avec les joueurs. Alors, évidemment, pour se cacher, après, c'est plus compliqué.
Non, mais franchement, quand je vous entends, je sens qu'il y a beaucoup d'optimisme chez les clubs qui jouent le maintien, et à Bordeaux franchement c'est compliqué. On a l'impression que la dynamique fait que Bordeaux est condamné à descendre. Il y a eu ce 3-0 à Nantes, ok, il y a eu cette petite victoire, t'en parlais Jérôme, contre Rennes il y a 15 jours, 1-0, mais avec des faits de jeu, un carton rouge contre Nzonzi au bout de 9 minutes. Alors ils ont été plutôt costauds après les Bordelais sur ce match-là, mais voilà. Et puis on était encore à la conférence de presse ce matin, on entend Jean-Louis Gasset qui nous dit qu'il a jamais envisagé de lâcher, mais voilà, on n'a pas cette sensation de grinta, de joueurs qui veulent aller au combat. Quand on entend Antoine Comboiré qui parle de finale, là du côté de Bordeaux, le discours c'est on essaie de chercher du positif là où il y en a. Ouais. Donc on leur a demandé, mais il est où le positif sur les trois derniers mois? Ils nous ont dit, bah, c'est le match de Rennes. Bon, ok.
Non, tu nous avais parlé de la Réunion.
Ah oui, bon, là, non, mais je vais arrêter de parler des réunions parce que ça va.
Il n'y a pas eu un barbecue là.
Ils
sont pas tous réunis là. Parce que,
non, je crois qu'ils sont pas réunis. Ils sont pas réunis cette semaine.
Je pense qu'ils peuvent plus s'encadrer.
L'Assemblée générale, elle avait eu que les faits.
Vas-y, Nico.
Non, mais puis en plus de ça, alors en plus de cette dynamique là, pour le coup, Jean-Louis Gasset a des blessés. Il devra faire sans Otavio. Kalou et Koscielny sont encore juste, donc ils joueront pas ce week-end. Mécher s'est blessé contre Nantes. Ben Arfa est toujours pas là, donc ça, c'est pas vraiment une grosse perte sur les dernières semaines quand même, et il faut le dire. Mais voilà, donc on a vraiment la sensation que Bordeaux est un peu condamné à descendre si au moins ils mettent pas l'état d'esprit et l'agressivité qu'il faut pour jouer ce genre de match.
On verra ça avec ce Bordeaux-Lens donc à suivre.
On souhaite aux dimanche 21h. Longue épée vienne faire un discours avant le match.
Voilà. Non mais par contre ça Jérôme, t'as raison, la direction, alors il y a Longue Épée, mais il y a aussi quand même un directeur sportif qui s'appelle Alain Laroche, qui est un ancien joueur, on ne les entend absolument pas parler. Donc Gasset est seul dans une galère totale depuis 4-5 mois, et c'est assez dingue quand même.
Alors faites vos jeux, n'hésitez pas, le hashtag RMC Live, vous venez sur RMC dire qui à votre avis va descendre, qui va se maintenir. Autre match qui concerne le maintien, Lorient-Metz et Nice-Strasbourg aussi, hein. Strasbourg et Lorient qui sont concernés, on n'en a pas parlé parce que Gilbert Bribois nous l'interdit.
Ouais.
Strasbourg. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre.
Allez, merci à vous.
Merci les gars. Merci, bon week-end à vous. On vous écoute dimanche 21h
dans
un multiplex exceptionnel sur RMC, bien sûr. À très bientôt. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau multiplex.
Et puis pour certains, l'année prochaine, le vendredi soir.
Salut les gars. Allez, tout de suite, le quiz de Roten Régal. Restez bien avec nous. Oui, alors je vous posais la question à vous qui nous écoutez, qui va se maintenir et qui va descendre. Un petit pronostic là. Allez, on se lâche, Jérôme.
Bordeaux alors, barrage.
Bordeaux barrage pour toi et Nîmes qui descend.
Bah, Nîmes, oui. Malheureusement, je pense que les crocos nîmois, ils vont y aller.
Captain ?
Oui, je pense Bordeaux barrage. Et c'est pas gagné en barrage.
Et vous imaginez un Bordeaux-Toulouse ?
Parce qu'un barrage, c'est Bordeaux-Toulouse peut-être.
Hein. Ouais. Peut-être, c'est une possibilité, oui. Vu que Clermont va monter.
Ouais.
Toulouse a de grandes chances de faire le barrage, ouais, final. Un Bordeaux-Toulouse, ouais. Oh, voilà, sur bon courage pour les Bordelais, parce qu'ils ont perdu en Coupe de France déjà contre Toulouse.
Ouais.
Les Bordelais à domicile.
Ah bon,
rappelle-toi. Ouais, il y a eu Bordeaux-Toulouse et Toulouse avait gagné.
Ah oui, déjà.
Haut la main à Bordeaux.
Ah ouais, d'accord. Donc tout est noir, quoi, comme nous le disait Nicolas Paul Orsi du côté de Bordeaux. Oui, on suivra ça aussi, bien
noir,
sûr.
Le mari de foncé.
Voilà, on suivra ça, bien sûr. N'oubliez pas, 21h dimanche, multiplex Ligue 1 et puis multiplex Ligue 2 demain sur RMC. À ne pas rater aussi.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. François Pinet.
Jérôme Roten.
19h50 sur RMC. Dans Roten Régal, il reste 10 minutes. François,
oui,
c'est l'heure
parti
du quiz.
Le quiz, on y va. Jingle. Jingle. Allez, jingle. C'est comme ça qu'on dit. Ah non, on n'en a pas. C'est pas grave, on y va. Arthur et Marouane nous sont avec nous.
Salut Marouane, salut Arthur.
Salut François, salut tout le monde.
Ah mais c'est Arthur qui est trop fort là au quiz.
Oui, c'est moi.
Alors je vais pas te faire choisir. C'est Marouane qui va choisir. Marouane, tu choisis. Tu veux jouer avec Captain ou avec Jérôme?
Avec Jérôme. Allez Marouane, on est ensemble.
Et toi, Arthur, tu seras avec Captain.
C'est ce que je voulais.
Ah, c'est ce que tu voulais?
Ah, c'est ce qu'il voulait en plus.
Ok.
Attends, tu vas voir.
Eh ben, c'est parti pour le quiz. On va commencer, messieurs, par une question musicale. Écoutez bien et vous me dites qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est à votre avis?
C'est la musique de la Champions League.
L'hymne de l'Euro.
L'hymne de l'Euro, Captain, c'est bon. Je t'ai entendu, effectivement, l'hymne de l'Euro. Ça, c'est composé par Martin Garrix. Et qui chante? Non, ça vous dit rien, ça?
YouTube.
Ouais, Bono de YouTube, bien sûr. La voix,
c'est
on connaît ça quand même.
Ouais, c'est Bono. Il a éclairci la voix, il a dû bien.
Bono qui chante de l'hymne de l'Euro. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Captain, il est à la page. Voilà, c'est sorti aujourd'hui.
Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, mais j'ai dû aller voir YouTube.
C'est pas mal, c'est pas
au Stade de France, mais tu plaisantes ou quoi?
Ben, j'ai jamais dit le contraire.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
J'ai rien dit.
Mais quel âge est Bono? Il a 55.
Oui, oui, non, mais je veux dire, la musique, elle est toute neuve. C'est pour ça que je dis que t'es à la page.
Elle est belle. Non, mais je dis au hasard.
Super.
Ouais, j'aime bien. Ouais.
L'hymne de l'Euro.
Ah bah, vas-y, on pose des questions là.
PSG Monaco, ça sera l'affiche de la finale de Coupe de France mercredi prochain, on est d'accord. La dernière finale PSG Monaco en Coupe de France était en 2010, oui. Ça, c'est bon.
Ouaro.
Bonne réponse, c'est Arthur, je crois. C'est Arthur. Oui. Arthur, bravo. Guillaume Ouaro, buteur, effectivement, lors de la victoire du PSG face à Monaco. Le PSG a remporté 13 Coupes de France. Monaco, c'est 5 victoires en Coupe de France. De quand date la dernière victoire de Monaco? 91, bonne réponse, Jérôme. Effectivement. Bon, après, c'est ton club. Hein.
Contre Marseille, but de Passy.
Et François, si tu pouvais lui poser une question, des questions sur Meudon.
Ça y est, ça commence.
Ou Châtenay-Malabry. Ou Châtenay-Malabry.
Châtenay-Malabry, je suis né, je ne connais pas ces
pour l'instant, Arthur, Captain 2 points, Marouane, Jérôme 1 point.
C'est incroyable ça.
Marouane, tu peux aider Jérôme. Hein.
Allez Marouane, allez.
Il a pas l'air de
voir.
Victoire 1-0 de Monaco, effectivement, contre Marseille à l'époque. Qui était le coach de Monaco?
Wenger.
Wenger, bonne réponse Jérôme. Ça fait deux partout. La charade.
Ma gueule.
La charade, Captain.
Ah, la charade.
Je sais que tu aimes bien la charade. Mon premier est à ne pas confondre avec un bus. Mon deuxième, peut-être à Moelle. Mon troisième est né à Meaux. Mon quatrième désigne les griffes d'un aigle. Montou jouait défenseur de l'OM et il avait joué cette finale contre Monaco.
Carlos Moser.
Carlos Moser, bonne réponse, ouais. Jérôme. C'est la première charade qu'il remporte, c'est magnifique. Carlos, le bris et les cerfs.
Bah, magnifique ta charade, bon, voilà. Elle est magnifique.
C'est affreux. Carlos, non, mais bris, en fait, je me suis trompé, mais c'est pas grave, il a compris.
Ouais.
Mais Carlos, un mot.
Vas-y.
Je voulais dire, mon troisième, c'est
le vieux des
sens du bris.
Il y a 3-2 pour moi.
Carlos Moser.
Pour nous.
Excusez-moi, messieurs.
Moi j'ai compris.
Il est extraordinaire.
Allez, on enchaîne. Ça fait 3.
Il a dit le contraire.
Oui, je me suis trompé. C'est pas grave.
C'est pas grave.
C'est la fin de semaine.
T'as raison. Moi j'ai
Thauvin. On va parler de Thauvin. Il a rejoint Gignac chez les Tigresses de Monterrey. Citez-moi le nom exact d'un autre club du championnat mexicain.
Universidad de México.
Guadalajara. Non, c'est pas bon. Exact. Parce qu'il y en a deux. Hein. Alors.
FC Monterrey.
Universidad. Tu m'as dit quoi?
Catolica.
Catolica, non.
Deportivo Toluca.
Deportivo Toluca.
Ah, c'est une
bonne réponse. Et c'est Marouane, effectivement.
Bien joué, Marouane.
Deportivo Toluca. Ah, c'est le club Universidad Nacional. C'est l'équivalent des Pumas que tu voulais me dire, peut-être.
Dommage. Pourtant, il a joué. Hein. Il a fait un tournoi de Six, Jean-Michel.
Ça fait 4-2 pour Marouane. Jérôme contre Arthur Captain. Thauvin va au Tigresse, comme Gignac et Delors, oui. Mais il y a un autre Français qui a joué. Qui ça?
Au Tigresse,
ouais. Colodizac.
Bonne réponse d'Arthur. Bravo, Arthur. Ah Timothée bon, Kolodziejczak, tout à fait, avant de rejoindre Saint-Etienne. Kolodziejczak a joué au Tigresse, oui. Ouais. Ça fait 4-3 pour l'équipe de Jérôme. Vous avez suivi la Q-Foot cette semaine, j'imagine. Quel club a été sacré champion au Portugal ?
Sporting,
c'est Arthur qui a été le plus rapide. 4 partout. Ah, il est bon, Arthur, il est bon. 4 partout. 2 points sont en jeu. Une journée de Serie A cette semaine. Citez-moi les deux Français buteurs lors de cette journée.
Verratu.
Théo Hernandez.
Hernandez, c'est bon. Et Rabiot, c'est bon. Ça fait 2 points pour l'équipe de capitaine.
Pas vrai.
Oh, là, là, là. Oh. 6 à 4. Marouane, il faut que t'aides Jérôme. Hein. Ouais. En Espagne, Benzema a encore marqué hier avec le Real Madrid. Un autre Français a marqué en Liga hier. Qui est-ce ?
Griezmann.
Non. C'est pas un Français qui a l'habitude de marquer.
Hernandez.
Fekir.
C'était avec Villarreal.
Capou.
Coquelin.
Capou, je crois que c'est Marouane qui l'a dit.
Ouais, Marouane.
Non, c'est Arthur.
Ouais. Non, il y a Marouane.
Arthur, 7-4.
Je sais pas si on l'a bien même dit. Ah non, c'était. C'est qui alors, Marouane ? Tu l'as dit, Capou ?
C'est Arthur.
Bah, moi, je l'ai dit avant lui.
Ah oui, Marouane
me dit qu'il le dit avant. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait confiance à Marouane. Voilà, Alors, ça fait 6-5.
Non, seulement ils sont joueurs, mais en plus, ils sont arbitres.
Non, mais c'est.
Non, on me dit dans l'oreillette aussi.
Oui, Flavien, il a contrôlé.
Dans le casque.
Flavien a contrôlé, il vient de nous le dire.
Mais quel menteur.
Pas du tout, Captain. Allez, 6-5. Qui a dit ? Ce sont des enfants capricieux dans une maternelle, des joueurs totalement immatures.
Larquet. Jean-Michel Larquet.
C'est Jean-Michel Larquet.
Mais t'as pas honte de faire ça. T'as pas honte.
C'est Jean-Michel Larquet. Mais Arthur l'a trouvé.
C'est quoi cette question ?
Arthur l'a trouvé. Ça fait 7 points pour l'équipe d'Arthur et Captain. Allez, 2 points de retard, ça va être compliqué.
Mais vas-y.
Qui a dit ? J'ai beaucoup profité de ma famille, de mes parents, j'ai géré mes affaires et maintenant je suis prêt pour revenir au foot. J'ai attendu. Jardim, bonne réponse de Captain, victoire. Victoire de Captain.
Oui, là,
victoire de Captain, il n'y a rien à dire. Il était bien, il était avec Arthur. Bravo Captain. Tu vois, Arthur, sans tricher.
Arthur,
tu gagnes.
On n'a pas été bon. On a été très bon. Il y a eu quand même 12 questions sur le Paris Saint-Germain.
Oh, Monaco, mais ça va, mais arrête.
Châtenay-Marie,
ça fait 8-5 pour Captain. C'est une victoire.
Sur les 8 points, t'as donné une réponse, Jean-Michel.
C'est vrai qu'Arthur, tu l'as bien aidé. Hein.
Bah, bravo, Arthur.
Bravo, Marouane.
Tu l'as mérité, Marouane. C'est comme quand Saint-Etienne gagnait. Je peux te dire que c'était pas grâce à Jean-Michel.
Qui c'est les plus forts, évidemment.
C'est Jacques Santini.
Tu finis en beauté, Captain. Une semaine excellente de Captain. Il est resté toute la semaine. Bravo, Captain.
À très bientôt, Captain. À dans 3 semaines, Jean-Michel.
Christophe Cessieux est là.
Bonne soirée.
Salut Christophe.
Avec du rugby au programme ce soir, les gars. Comment ça va ? Vous êtes
ça
en pleine forme ?
Écoute, on est en pleine forme.
Bon, eh ben, nous aussi, on va se régaler ce soir. Il y a du rugby, on va parler de vélo, de tennis, de moto. On fait de tout sauf de foot.
Oui, mais le rugby,
c'est quoi ?
Dimanche soir. Rugby, c'est Pau face au Racing. Ça va être
pas facile pour le Racing. C'est un déplacement compliqué.
Tu veux les trois quarts du Racing ?
Ouais,
c'est l'équipe de France.
En du rugby au programme.
Donc, toi, tu dis qu'il n'y a pas photo.
Ouais, on va peut-être pas faire le débat maintenant, les amis.
Bah, je sais pas, parce que j'entends. On n'a pas le temps.
Désolé, Jérôme.
Bah, Denis Charvet m'a dit une saucisse.
Ce serait pas la première. Hein.
Il a dit joue le match nul. Je lui ai dit, ouais, c'est ça. Ouais.
Week-end exceptionnel sur RMC, Multiplex Ligue 1 dimanche soir, Multiplex Ligue 2, la dernière journée en intégralité. C'est dès 19h demain avec Benoît Boutron.
C'est chaud.
Dès demain. Bon week-end, Jérôme.
Allez, bon week-end à tous.
Et à bientôt.